9 novembre 1932. Entre actes barbares et répression militaire, ce souvenir est un devoir de mémoire. Retrouvez l'ensemble de la commémoration sur www.libradio.org.
Dans 5 minutes, il y aura les prises de parole que l'on va relayer en direct sur Libre Radio. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est juste que nous sommes pour le moment une centaine de personnes, que les personnes arrivent doucement, qu'il fait froid, mais que nous avons une romaine. Une romaine, ça désigne une marmite auto-chauffante au bois qui est en train de produire de la chaleur, du bien-être et puis également du vin chaud. Et puis qu'à côté de ça, eh bien, les gens du Silur, notamment donc le centre autogéré à Genève, sont avec les gens du Nadir, donc le Nadir c'est un lieu autogéré destiné aux étudiants ici de Genève, sont en train de préparer une soupe aux légumes, bien chaude, bien comme il faut. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, n'hésite pas à fermer ton laptop et à nous rejoindre ici devant le parvis du Nimaï. Nous y sommes à partir de maintenant et jusqu'à à peu près 20h30, 21h environ. Se succéderont différentes prises de parole. Nous n'avons pas encore le programme exact, mais il y aura certainement, habituellement, la tradition veut que les syndicats s'expriment, que les partis politiques s'expriment et que également la société civile au travers d'associations s'exprime également ici au micro. Tout cela sera bien entendu relayé par la radio en direct, donc tu pourras écouter ça tranquillement. Et puis ensuite, nous allons essayer d'opérer quelques entretiens avec différentes personnes de passage. On verra, on en a contacté quelques-uns, on va voir s'ils sont dans le coin pour le moment. On voit devant nous deux drapeaux Antifa, ça nous fait du bien de voir ça. C'est effectivement un grand moment antifasciste qui se passe ici le 9 novembre 1932. On le rappelle, c'est l'extrême droite fasciste genevoise qui organise un meeting à la salle communale de Plein Palais pour une mise en accusation publique des deux leaders de la gauche genevoise de l'époque, Léon Nicole et Jacques Dicker, Jacques Dicker qui était par ailleurs de confession juive. Une manifestation ouvrière pour empêcher ce meeting réunit des milliers de personnes. Et craignant des troubles, le Conseil d'État fait appel à l'armée qui, elle, bien maladroitement, envoie des jeunes recrues inexpérimentées et puis piochées ici et là, encadrées par des officiers partisans qui leur font croire qu'une révolution de type bolchevique éclate à Genève. C'était un 9 novembre, c'était en 1932. La pressée par la foule des manifestants devant l'ancien palais des expositions, qui est donc actuellement Unimail, eh bien l'armée tire dans la foule à 21h34. Silence ! À 21h34, assassinant 13 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Ouais, maintenant c'est trop tard. Hein. Le cri a été perçu. Alors pourquoi cette commémoration ? Eh bien, c'est parce que le fascisme, eh bien, comme tu le sais, chère auditrice, cher auditeur, eh bien, il est loin. L'hydre, les têtes de l'hydre sont loin de s'arrêter, de ressurgir. Eh bien, c'est important que chaque année nous commémorions. Cela, cet événement funeste, et que se réunissent ici des personnes des aînés et des plus jeunes dans le cadre de cette transmission de savoir, dans le cadre de cette solidarité, de cette entraide, et pour montrer à toutes et à tous que cette mémoire locale, elle est existante, elle est vive. Et voilà, les prises de parole vont débuter dans quelques instants. On va faire une pause musicale et puis juste derrière, on écoutera directement. C'est Georges Tissot qui commence, ancien secrétaire de la CGAS et actuellement président de l'UOG. C'est bon pour nous, hein.
Mes camarades, juste avant d'évoquer le 9 novembre 32, on va avoir, comme plusieurs fois on l'a fait, une petite pensée pour 13 morts, mais pas ceux du 9 novembre 32. Il y a 108 ans, à 500 mètres d'ici, l'usine à gaz de la Jonction explosait, faisant, c'est une coïncidence, également 13 morts et des dizaines de blessés. Leurs noms sont tombés dans l'oubli, contrairement à ceux du 9 novembre. Ce n'étaient sûrement pas tous des militants, mais nous rendons aujourd'hui aussi hommage à ces victimes du travail, dont la mort avait été considérée à l'époque comme un risque du métier. Nous sommes réunis ici pour commémorer ce qui s'est passé à cet endroit le 9 novembre 32. Et cette fois, on n'est pas devant la pierre, mais on est vraiment à l'endroit où les victimes sont tombées. L'armée était contre, c'était pas ce mur-là évidemment, mais l'armée y était là. Et les gens qui manifestaient étaient sur la place ici, et les premières victimes sont tombées probablement à l'endroit où on est maintenant. C'était sur un fond de crise économique, et l'intervention de l'armée contre des ouvriers, contre des militants qui combattaient le fascisme, cette doctrine de xénophobie et d'exclusion, ce système qui voulait mettre à genoux le mouvement ouvrier. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la mise en accusation de Léon Nicolle et de Jacques Dicker n'était pas seulement un soi-disant procès contre des dirigeants de gauche, mais aussi une attaque xénophobe et raciste. Jacques Dicker était juif, et le fasciste et futur collaborationniste avec le nazisme, Géo Ultramar, qui était condamné à mort par contumace à la fin de la guerre par la France, Géo Ultramar disait de Jacques Dicker: « C'est une honte qu'un juif russe, tout juste bon à servir de conseiller national à des chimpanzés et à des ouistitis, représente Genève à Berne. » L'attaque portait ailleurs encore. Dans le Pilori, le journal fasciste, Géo Ultramar écrivait: « Notre ville connaît l'odieux régime de l'occupation étrangère. Un juif russe et un vaudois, c'est Léon Nicolle, bolchevisant, commande une armée de confédérés que le marxisme a dénationalisé. Les vrais Genevois ne constituent... » J'ai mal plié mon truc. Excusez-moi. « Ne constituent qu'une minorité qu'on brime et qu'on bafoue. D'où viennent les chefs du parti? Léon Nicolle de Montcherran, Vaud. Albert Nen de Lausanne, Vaud. Charles Rosselet de Neuchâtel. Jean-Baptiste Ponce d'Annemasse. Jacques Moïsovitch Dicker, de Chotine en Podolie. Ce sont donc deux Vaudois, un Neuchâtelois, un Savoyard et un Juif russe qui veulent faire la loi à Genève. » C'est donc ce que disait Géo Ultramar pour convoquer au meeting qui a eu lieu et qui a donné la fusillade du 9 novembre. On peut faire des parallèles avec la situation actuelle. On entend bien dans ces dénonciations de gens qui sont étrangers, qui sont en fait des frontaliers, mais de Suisse ou de France. Devant le désarroi né des difficultés économiques, du chômage, de l'exclusion, le repli sur soi engendre des divisions dont profite le patronat. Il mène tout droit à l'intolérance, à la xénophobie et au racisme. L'extrémisme de droite naît sur les peurs, sur les désarrois et la détresse de la population. Notre lutte ne peut pas se permettre des divisions. De voir les travailleuses et les travailleurs se dresser les uns contre les autres, sous prétexte de différences d'origine ou de couleur d'yeux ou de peau. Toute division entre nous fait la force de ceux que nous combattons. Nous n'acceptons pas les discours populistes, ces discours qui prétendent qu'il faut se protéger les uns contre les autres. Il n'y a qu'une seule condition à notre lutte, une seule solution pour gagner, c'est la solidarité et l'unité sans faille, sans hésitation, sans restriction de pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont payé ce combat de leur vie. Et si la situation des travailleuses et des travailleurs n'est plus celle de 1932, ce n'est pas le résultat du bon vouloir du patronat ni de l'État, c'est les résultats des luttes du mouvement ouvrier. C'est cela, mes camarades, le sens de l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux anciens. C'est en cela qu'ils nous ont préparé la voie, que nous continuons et que nous continuerons à suivre. Juste avant de passer la parole aux autres orateurs, Tris, c'est une oratrice d'abord, juste je vous signale qu'on a fait faire des vers marqués du 9 novembre 32. Ils ne sont pas consignés. Si vous voulez les garder, mettez un petit quelque chose dans la cagnotte qui est à côté. On avait dit 2 francs, mais voilà. C'est Caroline Cast qui, pour le Parti Socialiste, prend en premier la parole, en première la parole plutôt.
J'ai un cher camarade. Notre camarade Pascal Lundweg rappelait dans sa chronique du jour: commémorer, c'est un rappel et c'est un avertissement. C'est une mise en garde contre les bégayements de l'histoire. Car aujourd'hui, camarades, l'histoire, elle bégaye de plus en plus. Des personnes sont emprisonnées pour avoir voulu organiser une votation populaire sur une autodétermination en Europe. La dégradation des conditions de vie touche la Suisse, un de ses pays les plus riches du monde. Les mouvances d'extrême droite et fascistes se décomplexent et progressent en Europe dans les institutions démocratiques. Les femmes qui osent dénoncer le sexisme dont elles sont victimes sont systématiquement dénigrées et raillées. Camarades, ne laissons pas plus que ça l'histoire bégayer, ne la laissons pas bégayer jusqu'à l'étouffement. Stoppons ces mouvements par la force de notre solidarité, par la force de notre engagement, en étant unis toutes et tous, comme l'a pu le rappeler Georges dans son introduction. Je vous remercie de votre attention.
Je passe maintenant la parole au camarade Alexandre Nilin, que je ne vois pas, il est là, qui parle pour le Parti du Travail.
Bien, chers et chères camarades, le 9 novembre 1932, c'était il y a 85 ans déjà. À l'époque, le Conseil d'État de la République et canton de Genève, de droite, faisait intervenir l'armée pour défendre contre une manifestation antifasciste, un meeting, ou plutôt, je cite, une mise en accusation publique des sieurs Léon et Nicole, dirigeants du Parti Socialiste, organisé par le parti ouvertement nazi, Union Nationale, avec à sa tête l'antisémite notoire Géo Ultramar, avec lequel la droite genevoise de l'époque n'avait aucun scrupule de faire alliance pour disposer d'une majorité au Grand Conseil. Elle le faisait pas seulement par opportunisme, mais parce qu'elle n'était pas très loin de partager ses idées nauséabondes. Donc l'armée a reçu l'ordre de tirer à balles réelles, ce qui a fait 13 morts. Aujourd'hui, la droite genevoise considère normal de dire que c'était un passé lointain, qu'il ne faut pas trop formaliser pour quelque chose qui n'a aucun rapport avec aujourd'hui. On peut comprendre pourquoi cette droite veut oublier, surtout faire oublier son passé, parce que ce passé n'a rien de très glorieux. Il faut rappeler ce que c'était ce parti, l'Union Nationale, pour lequel le Conseil d'État a fait intervenir l'armée pour le protéger. Par exemple, dans le Pilori, son journal, on trouve les mots suivants. « Vous n'avez plus le droit d'être aveugle. Vous ne pouvez plus refuser les vérités que nous vous apportons. Il faut vous réveiller, montrer que vous avez du sang dans les veines. La Suisse nous regarde. C'est de Genève que partira la contre-révolution. Suivez-nous dès à présent. Vous serez forcés, tôt ou tard, de nous suivre pour défendre vos biens et vos territoires. Si vous ne votez pas pour nous aujourd'hui, avec des bulletins de vote, demain, fatalement, vous serez à nos côtés à coups de fusil contre la crapule. » C'est ça les gens que le Conseil d'État a fait protéger par l'armée. Donc on peut rappeler, effectivement ça a été dit, que pour ce parti fasciste, Léon Nicole et Jacques Dicker n'avaient pas seulement le tort d'être socialistes, mais aussi pour le premier vaudois, donc pas un vrai genevois pour l'extrême droite de l'époque, et le second un juif ukrainien. Donc, est-ce que la droite dite respectable ou républicaine et la presse bourgeoise classique n'avaient rien à voir avec ces propos ouvertement fascistes de l'Union nationale ? Loin s'en faut. À titre d'exemple, on peut citer non pas un journal d'extrême droite, mais le très respectable journal de Genève du 24 avril 1936. Dicker, c'est un être unique, un spécimen exclusif, une classe d'hommes à lui tout seul. À son endroit, une regrettable erreur de manœuvre fut commise. On s'est contenté de le naturaliser. C'est l'empaillé qu'il le fallut. Son ombre plane sur toutes les entreprises de la sociale et son nez se dessine en filigrane dans le papier où s'imprime le travail. Son activité est prodigieuse. C'est lui qui a imposé le yiddish comme langue officielle au Grand Conseil. Dicker n'est pas heureux. Une ambition secrète le dévore. Il rêve d'un grand gouvernement de front commun. Son ami Nicole en aurait été la tête, comme l'autre Léon Blum. Et lui, Dicker, toujours dans la coulisse, détiendrait le pouvoir effectif comme fait M. Jules Moche, secrétaire général de la présidence. Consolons Maître Jacques. Son rêve est au 50% réalisé. Léon Nicole n'est pas Léon Blum, sans doute, mais Dicker est Moche, incontestablement. Donc vous voyez que c'est des propos qui auraient très bien pu paraître dans les Folkischer Beobachter, le journal du NSDAP alors. Et tout là, il faut dire que la presse bourgeoise de ce temps présentait ce même ton tirant sur le brin. C'est quelque chose qu'on essaie de nous faire oublier, mais qu'il ne faudrait pas oublier. Comme l'a dit Karl Marx, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Alors quant à Géo Ultramar, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a travaillé en France comme éditeur de journal et animateur à la radio pour faire des émissions antisémites d'une violence inouïe. Il a été condamné en 1947 à 3 ans de prison par la justice fédérale pour haute trahison au service du gouvernement hitlérien. Et enfin, en 1950, condamné par contumace à la peine de mort par la justice française. Il a échappé en Espagne de Franco pour continuer son travail infâme. Et c'est cet individu-là que le Conseil d'État genevois de droite estimait utile de protéger et avec le parti duquel elle faisait alliance. Bon, mais est-ce que la droite aurait totalement changé du tout au tout depuis, serait devenue moderne, démocratique, si bien qu'il serait malvenu de rappeler ces faits d'une autre époque ? Enfin, la première chose à dire, c'est que la modernité telle que la conçoit la droite ressemble avant tout au passé. Encore cette semaine, l'USAM, l'Union Sud des Arts et Métiers, a proposé de moderniser et flexibiliser le droit du travail en portant la semaine de travail à 50 heures. Leur modernité ressemble à s'y méprendre au 19e siècle. Alors l'Angleterre capitaliste du 19e siècle décrite par Marx dans Le Capital ou à la France du Second Empire décrite dans les romans d'Émile Zola. Quant à l'extrême droite, elle est plus que jamais là. On a beaucoup parlé à juste titre de l'Amérique de Trump pour dire que les suprémacistes blancs aujourd'hui ne se sentent même pas obligés de mettre la cagoule blanche pour cacher leur visage parce qu'ils s'attendent à une complaisance sans faille au sommet de l'État. Même George Walker Bush a pu paraître presque sympathique parce qu'il s'est senti obligé de solidariser de son successeur. À tel point, c'est insoutenable, ces positions. On a parlé des élections autrichiennes, du FN au second tour. Il faut rappeler que le modèle pour l'extrême droite partout en Europe, c'est le premier parti politique suisse qui est au Conseil fédéral et qui a réussi à imposer ses délires nationalistes, ses thèmes xénophobes au PDC et au PLR et les faire largement inscrire dans les législations. Cette même alliance de la droite et de l'extrême droite prend des mesures de plus en plus liberticides, mettant en péril les droits démocratiques. Il faut dire que la loi sur les manifestations genevoises, qui a été portée par le procureur général actuel, Olivier Jorneau, si elle avait été mise en place dans un autre pays, Venezuela par exemple, on dirait qu'une telle loi prouve qu'il s'agit d'une dictature. Alors le fait qu'une telle loi soit en vigueur à Genève prouve qu'il y a une vraie menace sur les droits démocratiques. On n'est certes pas dans les années 30, mais est-ce qu'on en est si loin ? Aussi, le 9 novembre 2017, nous n'avons pas seulement un devoir de mémoire pour le fait qu'ils sont produits il y a 85 ans, mais avant tout des leçons à apprendre. Aujourd'hui comme hier, seul un front uni et combatif de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs et des organisations politiques et syndicales qui les portent peut mettre en échec le fascisme, ce qui doit passer par une lutte sans merci et sans concession, non seulement contre l'extrême droite, mais aussi contre la droite, entre guillemets, respectable républicaine, qui n'a jamais hésité à choisir Hitler plutôt que le Front Populaire et qui n'hésitera pas à le faire de nouveau. Comme a dit Che Guevara, le présent est fait de lutte, l'avenir nous appartient.
Je passe maintenant la parole à Pablo Cruchon pour Solidarité.
Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Je vais essayer d'être un peu plus bref, je vous rassure. Non, pourquoi fêter commémorer le 9 novembre ? Ce moment-là, au-delà bien sûr du devoir de mémoire, il y a un devoir de tirer les enseignements de ces événements. Et à mon avis, les enseignements sont les suivants. Cette situation a été rendue possible parce qu'il y a eu le croisement de différentes tendances entre un militarisme accru, un fascisme galopant et des dégradations des conditions de vie de la population. Et ces ingrédients sont venus se mélanger avec, bien sûr, en toile de fond, la peur de la bourgeoisie d'un renversement populaire. Et ce mix-là a créé les conditions pour un massacre de population. Et je crois que c'est extrêmement important de garder ça à l'esprit parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas celle de 1932. Je ne suis pas pour faire des parallèles comme ça, mais par contre, où il y a les tendances de fond qui ressurgissent. Les dégradations des conditions de vie, je crois qu'elles sont assez évidentes. On voit un recul très clair du pouvoir d'achat des gens, on voit des attaques sur les prestations sociales, on voit des attaques sur les conditions de vie de la population. Rien que cette semaine, vous avez eu les mouvements de grève de l'EMS, enfin des EMS, Plantamour et Notre-Dame, et la mobilisation des ouvriers de l'ABB qui défendent leurs conditions de travail ou leur emploi. On a aussi l'autre tendance qui revient, c'est celle du militarisme. On voit bien, tant au Conseil fédéral où on débloque des milliards pour acheter des avions qui serviront à je sais pas très quoi, pas trop quoi, mais disons en tout cas pas à nous protéger. Et on voit le GHI qui nous apprenait qu'on voyait la photo de Maudet devant la nouvelle caserne sur le site des Vernets juste derrière. On est vraiment sur une tendance de nouveau à la militarisation sous couvert de lutte antiterroriste. Et le troisième, évidemment, c'est la question du fascisme, ou disons en tout cas des mouvements xénophobes d'extrême droite. Je ne vais pas répéter ce que Alexandre Nilin a dit. On est dans un moment historique où ça renaît, où les nationalismes s'exacerbent, et où la xénophobie revient au devant de la scène de manière très forte, et l'antisémitisme aussi d'ailleurs, l'islamophobie et d'autres. Donc on a un moment où on commence à se diriger vers ce cocktail-là, et je crois qu'on a vraiment, vraiment besoin de relancer des luttes offensives, des luttes sur les améliorations des conditions de travail, des luttes contre la xénophobie, mais aussi pour davantage de droits sociaux pour les migrants, davantage d'une politique d'accueil, accueillante, justement, ce n'est pas le cas. Et on a besoin de reconquérir des droits collectivement et lutter pour des droits démocratiques plus larges. Et j'insiste là-dessus parce que ça rejoint la préoccupation qui a été dite avant, c'est celle sur la restriction des droits démocratiques et ceux de manifester, où on voit que la tendance de fond aussi à Genève est en train de durcir les droits de manifestation. Et je vous rappelle que la manif de 1932 avait été interdite afin de l'essayer de l'écarter et qu'elle a fini dans le sang. Donc je crois vraiment qu'on a des débats importants à mener et surtout des luttes concrètes à faire unir pour défendre nos droits démocratiques, nos droits sociaux et nos droits politiques. Voilà, je vous remercie.
Merci Pablo. Je passe maintenant la parole au dernier orateur, qui est Younis Moussa, pour le groupe Pour une Suisse sans armée.
85 ans. Déjà 85 ans, et pourtant force est de constater que beaucoup de choses n'ont toujours pas changé. La haine de l'autre est plus que jamais présente face à l'accueil de réfugiés. Le budget consacré au financement des armes de guerre augmente d'année en année, y compris en Suisse, et c'est une honte. L'exportation de matériel de guerre, souvent dans des pays déjà en proie à des conflits internes, ne cesse pas. Nous pouvons organiser des conférences de paix, des convois humanitaires, mais la racine du problème reste la prolifération des armes. C'est elle qui tue, qui détruit. Certains font absolument tout pour ne pas voir cette réalité. Le GSSA, plus que jamais, est prêt à faire cesser cela. En effet, nous avons lancé une initiative fédérale en avril dernier pour mettre fin à l'investissement de l'argent de la Banque nationale suisse et des caisses de pension dans la fabrication d'armes. Souvenons-nous de ces jeunes tombés ce soir du 9 novembre 1932. Des vies brisées, des familles déchirées, des destins anéantis. Souvenons-nous qu'ailleurs, ce n'est pas si loin, camarades, des personnes souffrent et en moyenne, 500 000 personnes meurent chaque année à cause des guerres, notamment avec des armes vendues par la Suisse ou financées par notre argent. Le discours militariste et populiste à l'aube d'élections font malheureusement la une au quotidien. C'est aussi pour cette raison qu'il est nécessaire de s'engager. Non, nos combats ne sont pas terminés. Certes, nous commémorons ce soir, mais cela ne veut pas dire que ça n'arrivera plus. Il est plus que temps pour la jeunesse de s'engager, car les plus anciens militants ne seront malheureusement pas éternels. Il est de notre devoir et par respect pour nos morts de faire en sorte que leur mémoire perdure pour l'éternité. Aujourd'hui, je peux témoigner que la jeunesse est malheureusement trop absente. Une démocratie saine se doit d'être représentée par les acteurs des décennies futures. Nombreux sont les jeunes qui souhaiteraient s'engager, mais qui ne le font pas, parce que la politique politicienne ne donne pas envie. Or, j'affirme que la politique doit être un élan, doit donner envie. En dépit de politiciens comme Guy Parmelin, chef du département fédéral de la Défense, qui ne sont pas à la hauteur parce qu'ils défendent un seul programme politique basé sur la peur de l'autre, l'exacerbation de l'identité du bon Suisse, le renvoi d'exilés, les hausses des budgets de l'armée, de nouveaux avions d'achat d'avions de combat, alors que le peuple avait clairement refusé, il y a peu, en 2014, l'achat des Gripen. Et en plus de tout ça, des coupes dans l'éducation et la formation. Comment donner envie à la jeunesse de s'engager, défendre le monde, quand face à de telles problématiques, certains rétorquent avec des solutions simplistes de repli sécuritaire? La jeunesse, dont je fais partie, exige un avenir de paix et de solidarité. Cela commence par dire non à tout ce qui touche de près ou de loin aux guerres et à l'armée. J'ai 20 ans et je crois à un avenir sans armes. C'est cela qui motive mon engagement pour un monde plus juste et plus paisible, pas seulement ici, mais aussi partout ailleurs. Souvenons-nous donc de ces 13 personnes mortes pour leurs idéaux et leurs valeurs et rendons leur hommage dans les urnes en faisant tout pour que l'extrême droite et la droite populiste ne s'imposent pas à Genève. Nous devons ça à ces 13 victimes et à notre jeunesse qui ne veut plus de toutes ces guerres. Vive l'antimilitarisme et vive la gauche.
Merci Younis. Alors les autres années, on avait dit qu'on attendait 18h34 parce que c'est l'heure où le feu a eu lieu. En fait, c'est pas vrai du tout, c'était 21h34. Mais c'est 18h34, donc on va faire comme si. Et donc on va, comme d'habitude, lire la liste des gens qui sont morts ce jour-là, les 13 victimes de l'armée suisse et du Conseil d'État en l'occurrence. C'était pas tous des militants, il y en a qui étaient là un peu par hasard, qui étaient là en badaud. Et ils ne sont pas tous morts tout de suite, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire en essayant de faire un cadavre ici. Il y en a qui sont décédés dans la nuit, le lendemain, peut-être certains, 3-4 jours après. Les 13 victimes, c'était Melchior Alemán, qui avait 31 ans, qui était employé d'hôtel et militant socialiste. Hans Brugger, qui avait 28 ans. Francis Clair, qui avait 54 ans, qui était fraiseur à l'usine Gardy et dont le fils faisait partie des recrues qui étaient ici. Henri Furst, évidemment, qui avait 38 ans, qui était mécanicien et président du Parti communiste genevois. C'est lui qui a été la première victime parce qu'il s'est avancé vers l'armée pour leur demander de ne pas tirer. Émile Guignet, 27 ans, qui était employé à la Société industrielle mécanique. Émile Henry, 55 ans, qui était batelier au quai Gustave Adore. Edmond Junot, 29 ans, mécanicien chez Moto Sacoche. Alphonse Colli, 41 ans, colporteur. Jean-Pierre Lardera, 23 ans, employé de commerce. Gabriel Loup, 57 ans, maître boulanger, c'était le patron de la boulangerie du Bourg-de-Four. Oscar Maurer, 25 ans, employé de banque qui sortait des cours du soir ou qui rentrait chez lui. Édouard Quillet, 34 ans, employé à l'armée du salut. Et Marius Rata, 36 ans, régent principal à Schönbourg. Voilà les 13 personnes qui sont mortes et d'autres ont été handicapées à vie, puisqu'il y a eu une soixantaine de blessés. Évidemment, c'est facile pour une armée de tirer dans la foule qui était très nombreuse ce soir-là. Voilà, la partie officielle de cette commémoration est terminée. Il y a peut-être des gens qui veulent prendre la parole. On leur donne le micro, mais ça ne fait plus partie de la partie officielle. Je vous rappelle donc, on a le Parti du Travail qui a fait un vin chaud. Il y a nos camarades du, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bistrot là au coin, qui ont, le Nadir, pardon, merci, qui ont fait aussi à manger. Et puis le comité qui a mis du fromage et du pain à disposition. Et je vous rappelle, pour les verres, il y a du vin, évidemment. Les verres, si vous voulez les garder, ils sont marqués au sceau du 9 novembre. Vous nous donnez 2 francs par verre, si vous voulez les garder chez vous. Voilà, merci d'être venu ce soir et à l'année prochaine. Merci, camarades.
Bonsoir, camarades. Ceci est un hommage à la passion de vivre illuminée par la vive mémoire de nos camarades assassinés. Ceci est une célébration de la joie de croire en certaines choses que la mort ne peut pas tuer. Je vais vous faire une citation du camarade Luigi Bertoni, typographe, secrétaire syndical, militant anarchiste, rédacteur et éditeur du Réveil anarchiste de 1900 à 1946. Nous nous résignons point, ayant conçu la vie comme un incessant combat, précisément pour la rendre plus noble, belle et féconde. D'autres ont besoin d'écraser leur prochain pour croire s'élever. Nous, c'est dans l'élévation de tous et de toutes que nous voyons la joie la plus grande de l'existence humaine. Camarade Luigi Bertoni a subi la répression suite aux événements tragique du 9 novembre 1932. Continuons la lutte, continuons les combats. Les martyrs vivent dans les luttes. Merci.
Merci. Pablo.
Oui, on va juste donner la parole à nos camarades érythréens qui ont juste une annonce à faire. S'il vous plaît, écoutez bien, mais c'est important.
Voilà, bonsoir à tout le monde. On aimerait, demain, on a une manifestation contre le pouvoir de Asmara en Érythrée, car en Suisse, il y a à peu près 25 réfugiés ces dernières 20 dernières années. Et la Suisse, il a une nouvelle pratique de collaborer avec le pouvoir d'Asmara, malgré qu'il n'a pas, il a pas changé sa manière de pratique. Et on aimerait bien votre solidarité. Demain, on sera à la place de Nation pour manifester contre le pouvoir. Et puis, on demande aussi la sensibilité de la population pour la droite, cette nouvelle pratique qui est vis-à-vis à des nouveaux demandeurs d'asile. Car il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui et de nouveau qui deviennent victimes en Suisse. Et car ça, c'est vraiment très difficile à accepter pour beaucoup des jeunes érythréens qui sont là ce soir aussi parmi nous. Merci.
Chers camarades, j'aimerais rappeler que nous sommes en 2017. Et qu'il y a 100 ans, nos camarades russes se sont levés contre le capitalisme. Ils ont payé très cher dans le sang un avenir qu'ils pensaient meilleur. Et j'aimerais à la suite apporter une 14e victime en cette année, donc 2017, et 1967, mourait assassiné par le FBI, la CIA, notre camarade Che Guevara. Je pense que nous pouvons lui faire honneur à cette 14e victime.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.